devons remercier, bénir notre Dieu qui nous a donné ses enfants à instruire. Alors, il est vrai que dans l'Antiquité, il n'y avait pas des reporters, des journalistes. Et donc, on a bien fait d'en envoyer deux avec notre machin spatio-temporal, je ne sais plus comment. C'est vrai, il n'y avait pas des journalistes, mais il y avait des historiens quand même. C'était des personnes qui étaient chargées de noter tous les événements importants qui se passaient. On a rien sur la naissance de Jésus. On n'a rien. Par contre, il y a des journalistes, entre guillemets, historiens de l'époque, qui ont parlé de Jésus. Et parmi ceux-ci, un de ceux qui a le plus parlé de Jésus, c'est Flavius Joseph. C'était un historien qui étudiait l'histoire des Juifs. Et il parle d'un sage nommé Jésus qui fit un grand nombre d'adeptes. Pilate le condamna à être crucifié. Mais ceux qui étaient ses disciples continuèrent de l'être. Il disait, donc ses disciples, qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Alors, à part quelques bribes par-ci par-là d'historiens de l'époque, nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur Jésus. Par contre, nous vivons par la foi. Et tout ce que nous savons de Jésus se trouve là-dedans. Et on n'a pas besoin de rien d'autre. Mais c'est quand même intéressant de savoir que des historiens ont signalé la présence de Jésus à cette époque. Parce que y a des gens qui vous disent Jésus, il n'y a aucune preuve, c'est des histoires. Non, c'est historique. C'est historique. Il y a vraiment des journalistes, entre guillemets, qui ont rapporté des faits, très peu, mais suffisamment pour nous persuader que Jésus a bien existé. Mais la plupart dans cette salle, nous n'en avons pas besoin parce que nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi dans ce livre qui nous a été donné et qui est la parole de Dieu. Alors, nos petits reporters, nos petits Tintins, ont interviewé les gens de l'époque. Et qu'est-ce qui apparaît de cela? C'est qu'on perçoit un scepticisme. Donc, les gens doutent, ou les gens ne savent pas, ignorance. Étonnement, doute parmi les personnes interrogées. Comment le Sauveur du monde serait né dans des conditions aussi misérables? Les gens se disaient, ça nous semble incroyable, ce n'est pas possible. Pour eux, le Messie, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un de grand, donc qui devait naître dans des conditions aussi de grandeur. Mais Dieu s'est abaissé. Et non seulement il s'est abaissé jusqu'à devenir un petit enfant, mais il s'est abaissé jusqu'à devenir un petit enfant, pas dans une famille riche, mais dans une famille pauvre et dans des conditions misérables. Alors pourquoi est-ce que ces personnes interviewées par nos Tintins, pourquoi est-ce qu'elles s'étonnent, pourquoi est-ce qu'elles doutent, pourquoi ce scepticisme? Parce que, à l'époque, ils imaginaient que, ils attendaient un grand leader. Un grand leader, genre Moïse, Josué, Samson, avec les muscles de Schwarzenegger. Ils s'attendaient à quelqu'un un grand leader guerrier qui allait les libérer de la domination romaine et qui allait rétablir le royaume d'Israël, un peu comme au temps du roi Salomon, où le royaume d'Israël était vraiment à son apogée. Alors, c'est difficile d'imaginer qu'un petit enfant comme ça, né dans des conditions misérables comme ça, puisse un jour devenir un grand leader. Cependant, nous constatons qu'il y en a qui ont déjà cru, comme ces bergers, comme ces mages venus de l'Orient, qui sont venus l'adorer, et qui ont compris déjà qui était Jésus. Par contre, comme il a été dit, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Beaucoup n'ont pas cru. Alors, je suis sûr que, comme moi, vous avez été touchés en observant ces enfants, par le naturel, la spontanéité avec laquelle les enfants ont joué leur rôle, nous ont raconté cette histoire de Jésus, la naissance de Jésus. Alors, lorsque nous observons les enfants, eh bien, nous avons l'impression qu'ils ont quelque chose que nous n'avons plus ou plus beaucoup. Quelque chose que nous aurions perdu. Et parfois, nous avons une nostalgie, une certaine nostalgie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, moi, j'observe ces enfants, je dis, « Oh, comme j'aimerais bien redevenir comme ça. » Comme cet enfant. Parce que ces enfants, ils ont quelque chose que nous avons un petit peu perdu. Comme par exemple, cette capacité de nous émerveiller. Je me souviens, la première fois que j'ai été à Ostende avec mes parents en train, on n'avait pas de voiture, quand je me suis retrouvé face à la mer, à la beauté de la mer, cet émerveillement, ce choc que j'ai ressenti à l'époque, eh bien, je ne l'ai plus ressenti aussi fort. Et ça a été la même chose pour un tas de choses. Toutes ces choses, toutes ces beautés qui m'ont émerveillé quand j'étais enfant, mais je ne ressens plus de la même façon. Aujourd'hui, je vais à Ostende. Bon, j'aime bien, j'aime toujours bien, j'admire la mer, c'est beau, mais la première chose qu'on fait, c'est d'aller réserver une place pour aller manger des moules et des frites. On a perdu cet émerveillement les enfants d'une manière naturelle. On ne réagit plus comme avant, on devient blasé. Au début que j'avais mon ordinateur, à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur, à chaque fois il y a un beau paysage qui apparaît. Alors au début j'étais là, comme ça, je regardais. Wow, comme c'est beau, hein, c'est... Ouais. Et la cascade, les lumières du soleil qui se reflètent sur l'eau, comme c'est beau, tout ça. Maintenant, je fais mon code, tac, 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 pouf, je mets mon travail. Je n'ai plus... voilà, on se blase plus vite. Alors que les enfants, eux, ils restent toujours longtemps émerveillés. Je me souviens que j'ai été chercher une fois ma petite fille à l'école et dans la cour de récréation, il y avait un petit garçon qui pleurait. Et ma petite fille, tout de suite, « Oh, le petit garçon, pourquoi il pleure ?» Et je dis, « ça ne doit pas être bien grave. » Vous voyez, les petits-enfants sont tellement sensibles. Ils s'émeuvent facilement. Ils s'intéressent aux autres. Alors que nous, petit à petit, en grandissant, c'est vrai qu'en vivant dans cette société, nous devenons de plus en plus difficiles à émouvoir. Nous devenons de plus en plus difficiles à nous intéresser aux autres. C'est la vie privée de chacun, on ne doit pas trop se mêler. Et enfin, il y a chez les enfants cette confiance. Cette confiance illimitée dans leurs parents. Moi, je me souviens quand je revenais de l'école, avec mon cartable, je grimpais la rue Montagne-Saint-Olburge, qui, comme son nom l'indique, monte très fort. Et quand j'arrivais devant chez moi, déjà quand j'arrivais devant le bâtiment, parce que c'était des appartements, mais déjà je sentais un sentiment de sécurité. Et quand je rentrais dans l'appartement et que j'étais avec mes parents, mais je me sentais en sécurité. C'était comme si j'étais rentré dans un bunker. Rien ne pouvait m'arriver. Tellement j'avais cette confiance parce que mon père et ma mère étaient là. Et petit à petit, j'ai eu des contacts avec l'extérieur. Donc, comme tous les enfants, on a des fréquentations. Et petit à petit, je suis devenu plus sceptique. Est-ce que ce que mes parents me disent, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que il y avait des copains qui me disaient, « Ouais, tu sais, les parents. » Alors, je ressens, quand j'observe ces enfants, je ressens une certaine nostalgie. Parce que j'aimerais bien retrouver ces émotions. Alors, est-ce que cela est perdu? Est-ce qu'on a perdu cela? Non. Ce n'est pas perdu, c'est toujours en nous. C'est toujours en nous, mais ça s'est assoupi, endormi, avec la vie. En grandissant, avec la vie professionnelle surtout, tout cela, ça s'est mis de côté dans un coin quelque part. Mais c'est toujours en nous. Parce que si c'était perdu, comment alors pourrions-nous venir à Jésus comme des enfants? Parce que c'est cela que Jésus nous demande, de venir à lui comme des enfants. Trois exemples, Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Alors, dans les gens qui étaient là, il devait y avoir des gens qui étaient très instruits, qui devaient être vexés quand même, hein, devenir comme un enfant. Ça veut dire quoi? Alors tout ce que j'ai appris, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Hein. Donc les enfants, il faut continuer à aller à l'école, hein, et bien travailler. Hein. Mais Jésus veut dire qu'il n'y a pas que l'intelligence, il y a le cœur. Et les enfants ont un cœur d'enfant. Et nous devons venir à Jésus avec ce cœur d'enfant. Essayer de le retrouver parce qu'il est toujours là. Il est toujours là, mais il faut le faire ressurgir. Deuxième exemple, Matthieu 19, 13. Ça, c'est le célèbre passage où les enfants veulent venir, mais les disciples veulent empêcher les enfants de venir importuner Jésus. Et Jésus va donc répondre. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc voilà encore un deuxième exemple. Jésus nous demande d'observer les enfants, de les observer afin que nous puissions... faire ressortir toutes ces choses que nous avions mis de côté et de venir à Jésus dans cette attitude d'enfant. Troisième exemple, Matthieu 18, 3. Je reviens en arrière. On peut commencer aux deux plutôt. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, au milieu des disciples, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, voilà, Jésus nous demande de... venir à lui comme des enfants. Alors, devenir des enfants, c'est, dans le langage populaire, dans le monde, on dit retomber en enfance, quoi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout que Jésus veut dire. Mais c'est de retrouver cet émerveillement. Ce cœur d'enfant, il est toujours en nous. Et Jésus donc demande de nous que nous le réveillions, ce cœur. Qu'il revienne à la surface, qu'il remonte à la surface. Afin que nous soyons émerveillés de nouveau par sa bonté, son amour, sa grâce envers nous. Afin que nous soyons touchés par le prix que Jésus a payé pour nous en mourant sur la croix. Et aussi afin de lui faire totalement confiance, de nous donner vraiment à lui, comme à un père bienveillant. C'est de cette façon-là, c'est dans cette attitude-là que nous devons approcher Jésus, que nous pouvons approcher Jésus et que nous devons entendre, écouter l'Évangile. Certains d'entre nous connaissent l'Évangile depuis très longtemps, sont chrétiens depuis, sont convertis depuis très longtemps. Mais le danger de nous refroidir nous guette. Alors lorsque nous constatons que nous sommes en train de nous refroidir, ben, observons ces enfants. Regardez ces enfants, comment ils sont... émerveillé. Alors pour ceux qui n'ont peut-être jamais connu le Seigneur et qui entendent l'Évangile pour la première fois, eh bien, si vous l'écoutez avec un cœur endurci, il ne saurait produire d'effet. Il faut l'écouter avec un cœur d'enfant. Alors maintenant, on a parlé de Jésus Sauveur. On va lire dans Luc, chapitre 2. À partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, bien sûr, à nous qui sommes habitués, qui avons reçu une éducation chrétienne, nous, on comprend ce que ça veut dire. Mais imaginez quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. On parle d'une bonne nouvelle. Ah, bon, ok, une bonne nouvelle. Un enfant nous est né. Un enfant, il y en a plein les maternités, hein, les enfants. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet enfant? Et je pense que nous devons expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle. Et pourquoi cet enfant est si important? Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette joie? Nous nous réjouissons que cet enfant soit venu au monde. Je vais résumer, mais je crois que ceux qui veulent aller plus loin dans cette réflexion, je suis disponible et il y a d'autres personnes ici qui sont disponibles. Mais voilà, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, eh bien, nous sommes sous le coup d'une condamnation terrible. Terrible. La relation avec Dieu a été rompue. Et nous ne pouvions rien faire pour rétablir cette relation. Nous étions perdus. Alors la bonne nouvelle, évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne son Fils, ce petit enfant. Pourquoi? Afin de nous donner la possibilité d'être réconciliés avec lui. Ah bon, on est fâché avec Dieu? Ah ben oui. Ben oui, depuis donc Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde et s'est répandu comme un virus. Ça, on connaît hein, maintenant, hein, les virus avec Internet et tout ça. Et nous sommes tous atteints de ce virus. Et Jésus a donné son Fils pour nous sauver de cette condamnation, pour nous donner en tout cas la possibilité de nous sauver de cette condamnation. Alors Jésus n'est pas venu pour libérer les Juifs des Romains, des Égyptiens ou des Martiens, mais il est venu pour nous libérer, pour nous délivrer du péché. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que si on n'explique pas à ceux qui ne sont pas habitués au langage évangélique, eh bien, c'est difficile à comprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut se réconcilier avec nous. Alors, je ne suis pas habitué à ne pas avoir de chair. Hein. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui aurait pu nous laisser dans notre condition. Il aurait pu nous ignorer. Il aurait pu dire, les hommes ne m'intéressent pas. Ils sont mauvais, ils ne me le veulent pas, ils me rejettent, ils se rebellent. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Ils auraient pu vraiment nous laisser dans le sort qui était le nôtre, qui était d'aller vers une condamnation terrible. Je n'en dis pas plus, il y a des enfants ici. Mais au lieu de ça, voilà, par amour pour nous, eh bien, Dieu nous a donné cette solution. Cette solution que nous n'avions pas. C'était à nous d'aller vers lui, mais nous n'avions pas les moyens d'aller vers lui. Alors c'est lui qui est venu vers nous. Il est venu sous la forme de ce petit enfant. Ce petit enfant, je ne veux pas ici gâcher l'ambiance, bien sûr, on est dans la joie de la naissance de Jésus, mais Michael l'a dit tout à l'heure dans sa prière, il ne faut pas oublier que cet enfant va grandir. Il va devenir un homme, il va quitter sa famille, il va se mettre à prêcher partout. Et puis un jour, il va se retrouver sur cette croix. Et ça, pour nous, pour prendre sur lui ce péché qui était entré dans le monde et tous nos péchés. Alors, voilà, gloire à Dieu, que Dieu soit loué pour ce Fils qu'il nous a donné aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie, parce que nous savons qu'un jour, non seulement Dieu nous a épargné cette condamnation, mais Dieu veut nous avoir avec lui. C'est merveilleux quand même ça. C'est merveilleux. Dieu veut nous avoir avec lui dans son ciel, dans sa gloire. Il veut partager sa gloire avec nous. Alors, est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça? Est-ce qu'on ne devrait pas s'émerveiller comme des enfants et dire, oh, c'est formidable. Voilà, c'est là-dessus que je veux vous laisser. Encore une fois, merci Seigneur pour ton Fils que tu as donné pour nous, pour mourir sur le bois de Golgotha, pour nous sauver. Amen.